on nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les sous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, il est 19h03 et vous êtes bien sur la plus rebelle des radios, Radio Canu. Et c'est l'heure du Canu Info du lundi soir.
Avec ce soir à l'international, on va commencer par un militant fasciste italien qui tire sur des migrants à Macerata. Puis on parlera des bracelets électroniques pour les employés d'Amazon. On passera au national avec une rixe à Calais entre migrants, les conséquences de la répression d'État. On ira du côté de la victoire des Chibanis de la SNCF qui ont enfin obtenu gain de cause. On ira du côté du patriarcat avec un violeur acclamé à l'Assemblée nationale, puis d'autres brèves, toujours au sujet de notre cher patriarcat à la française. On finira le national avec l'occupation des locaux à Paris 8, à l'université Paris 8, par des étudiants et des migrants sans papier qui sont hébergés dans l'amphithéâtre. Ça nous rappelle quelque chose à nous lyonnais. Au local, on parlera de l'enfarinage de Kim Effeld, de président de la métropole, qui s'est fait bien duper par quelques camarades.
Oh, le pauvre petit.
Le pauvre.
Et on parlera des senteurs exotiques et agréables qui vont maintenant, d'ores et déjà, pas d'ores et déjà, mais très prochainement, envahir nos rames de métro lyonnais.
T'as pas senti.
Pour 10, seulement 10 centimes d'augmentation du prix du ticket.
Ouais, excusez-moi.
On parlera ensuite de notre peut-être future prochaine maire de Lyon, Caroline Collomb.
Mais c'est qui ça?
On connaît ce nom déjà, non?
On continuera avec l'ex-chef du GU de Le Gain de Géant qui, on l'a appris aujourd'hui, est en prison.
Oh non.
Oui, on va s'attrister ensemble tout à l'heure. Et puis, on va à nouveau des vagues de licenciements et de suppression de postes à Carrefour, toujours au local. Et on finira avec un dossier sur l'IDEX à Lyon en compagnie d'invités qui viennent de l'ENS de Lyon et qui décrypteront un petit peu
les invités, membres du collectif IDEXIT, un collectif étudiant interfac, interétablissement d'enseignement supérieur contre l'IDEX.
Gros dossier.
Merci.
Gros dossier, oui.
Et on terminera par le traditionnel agenda.
Bien. Alors, on commence à l'international par donc cette histoire d'un militant
néofasciste qui a tiré sur des migrants donc à Macerata dans le centre de l'Italie. Donc les événements, un Italien de 28 ans, crâne rasé, alors est-ce un hasard, le crâne rasé, on le verra plus tard, a été arrêté à Macerata samedi 3 février après être sorti de sa voiture de sport, enfilé un manteau, prenant le temps d'endosser une écharpe tricolore italienne, de faire tranquille un salut fasciste, hurler « Viva Italia » et vider deux chargeurs d'un pistolet sur 6 personnes, de couleur bien entendu, toutes d'origine étrangère, toutes sont blessées, dont une gravement. Mais alors, qui est ce type qui a tiré comme ça sur, de manière raciste
hein,
sur des étrangers ? Un terroriste ou bien quelqu'un issu d'un parti politique qui se présente aux élections législatives ? Alors, il s'appelle Luca Treni, il a été candidat en 2017 sous l'étiquette de la Ligue du Nord, qui est un parti proche des idées néofascistes italiennes, en tout cas xénophobe, ça c'est sûr, un parti d'extrême droite très prononcé. Chez lui, donc, après qu'il ait tiré sur ces 6 personnes, les flics ont retrouvé un petit exemplaire de Mein Kampf, des croix celtiques et plusieurs bouquins liés à l'extrême droite, voire des bouquins carrément néofascistes, voire donc néo-nazis.
Mais c'est sans doute l'œuvre d'un déséquilibré, non ?
Oui, c'est évident.
Du coup, ça relève de la psychiatrie et non du terrorisme.
Une enfance tragique.
Alors, eh bien non, figurez-vous. L'élément déclencheur, selon lui, hein, de son acte, c'est la mort d'une jeune femme italienne de 18 ans, le 31 janvier.
Ah, c'est un mec engagé contre les féminicides.
Exactement. Et donc, je vous passe les détails de la mort, qui est quand même particulièrement tragique et de cette femme, effectivement, et dont les premiers éléments d'enquête permettent de désigner comme le meurtrier un migrant d'origine nigériane. Alors, Matteo Silvani, le chef de file de la Ligue du Nord, a évidemment aussitôt instrumentalisé ce meurtre en dénonçant le laxisme en termes migratoires d'une gauche aux mains pleines de sang. Les médias ont repris cette phrase, n'ont eu de cesse de relater en détail cette histoire qui est particulièrement glauque. Et donc Luca Treni, quant à lui, prémédité cette attaque plusieurs jours avant de passer à l'acte en se disant « je vais venger cette femme italienne, tout ça c'est à cause des Noirs, en gros, je vais donc tuer des Noirs ». Contrairement à ce qu'ont pu avancer certains sites de la fachosphère française, ils n'avaient aucun lien avec la jeune femme tuée. Par contre, quant aux 6 personnes sur lesquelles il a tiré, toutes originaires donc du Mali, de Gambie ou du Nigeria, elles sont évidemment épouvantées et se sont senties la cible d'une véritable chasse à l'homme. Une fois n'est pas coutume.
Et des bracelets électroniques pour les employés. C'est le nouveau concept de surveillance pour lequel la société Amazon s'est vue accorder cette semaine 2 brevets. On n'est hélas pas étonné de la part de la multinationale accusée d'imposer des conditions de travail intolérables dans ses entrepôts, comme des pauses toilettes chronométrées, des semaines de travail à 55 heures et des chronomètres qui permettent de s'assurer qu'un employé remplit assez de boîtes heure par heure. Signalons également sa propension à ubériser au calme librairies, disquaires et autres petits commerces en concentrant le marché et en obligeant ces derniers à réaliser le plus gros de leurs ventes sur la plateforme Internet au prix et aux conditions du géant capitaliste. On franchit pourtant un cap avec ce dispositif habituellement réservé aux peines de prison aménagées et qui en dit long sur ce que redevient le travail dans nos belles démocraties néolibérales. On notera discrètement que néolibéral désigne bien le courant qui impose aux travailleurs de porter des bracelets électroniques. Le but de ces bracelets serait de surveiller où les employés posent leurs mains lorsqu'ils rangent les produits et vibrer lorsqu'ils touchent le mauvais endroit ou le mettent au mauvais endroit.
On dirait les trucs pour les chiens, pour les empêcher d'aboyer.
Ouais. Là, oui, avec une décharge électrique, ça serait bien.
La prochaine étape sera certainement de petites décharges électriques punitives en cas d'erreur ou après quelques secondes d'inactivité. On n'arrête pas le progrès. Prime d'auto-licenciement pour remplacer les CDI par de l'intérim, répression des employés syndiqués, délation rémunérée entre salariés, cadence infernale, conditions de travail exécrables. On n'arrête pas le profit pour les bourgeois, à tout prix, sur nos têtes, nos corps, nos esprits. L'esclavage moderne se part de technologies high-tech qui, en criminalisant la pause ou l'erreur chez l'employé, tentent d'inverser notre lecture. Les criminels sont bien du côté des bourgeois, aggravant la traite des femmes et des hommes prolétaires sans aucun scrupule. Ils ne s'arrêtent que quand la lutte et la grève se mettent en travers de leur passage. Espérons donc que les salariés d'Amazon puissent résister et repousser cette nouvelle offensive du patronat et entraînent avec eux les exploités du monde entier.
Ouais, on leur souhaite bon courage pour les années à venir.
Alors, on passe au national et on va aller du côté donc, d'affrontements qui ont eu lieu à Calais jeudi. Et évidemment, la réponse du gouvernement, on va le voir, c'est la répression. Alors, en gros, jeudi, des affrontements bien vénères ont éclaté à différents endroits à Calais, notamment au moment d'une distribution de nourriture. Les témoins rapportent l'attaque d'une centaine d'Érythréens armés de bâtons contre un groupe d'Afghans, ainsi que dans d'autres endroits de Calais, selon donc certaines assos locales, de possibles règlements de compte entre passeurs. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'il y a des violences à Calais entre migrants et que ça arrive à Calais. Et c'est normal. La situation d'extrême pauvreté dans laquelle vivent aujourd'hui environ 800 migrants à Calais en est la cause responsable. Les migrants doivent mener une lutte permanente pour leur survie, que ce soit en termes de nourriture, d'abri, de sécurité physique également, car les flics sont là pour gazer, frapper, voler des affaires, empêcher l'accès à l'eau, empêcher l'accès à la nourriture parfois. Dans cette situation de misère totale et d'insécurité, dont l'État français est entièrement responsable, notre cher Gérard Collomb a une nouvelle fois instrumentalisé ces affrontements afin d'augmenter la présence policière à Calais. Il a même osé dire, je cite, « chacun est accueilli ». Ceux qui sont ici veulent rester clandestins, ce n'est pas possible. Mais personne n'est dupe. Les migrants qui seront éventuellement intégrés dans des centres prévus à cet effet seront fichés, comme le veut la circulaire Collomb, pour mieux les renvoyer soit en Europe pour les Dublinais, soit dans leur pays d'origine. Dernier point. Un bon paquet de médias nationaux ont présenté ces affrontements de jeudi comme un conflit ethnique. C'est évidemment une simplification qui permet à la bourgeoisie de se laver les mains de sa responsabilité totale dans l'actuelle situation à Calais. C'est elle qui, à l'échelle internationale, maintient des régimes, tout ce qu'il y a de plus autoritaire pour les beaux yeux de ces entreprises nationales, pour la France CAC 40 et Bolloré en tête. C'est elle, la bourgeoisie, qui maintient ses populations dans une pauvreté permanente et insupportable, qui n'ont d'autre choix que de partir pour ne pas mourir. C'est aussi la bourgeoisie qui réprime et maintient à nouveau ses populations dans la misère ici en France. Et là, à Calais. Le problème n'est donc pas les règlements de compte ethniques à Calais, comme ont bien voulu nous faire croire les médias nationaux, mais bien la politique impérialiste et anti-migratoire de la France.
Au sujet de la situation à Calais, on recommande un documentaire qui a été fait par des militants qui s'appelle « Regardez ailleurs » qui vient de sortir et qui, en fait, en revenant sur la jungle, la première jungle de Calais, s'attarde pas mal sur la seconde jungle où la répression est insoutenable, où les policiers, on voit les policiers gazer l'eau, gazer les fringues, les duvets, les sacs de couchage, tous les effets personnels, et les services de la ville jeter tous les effets personnels et faire constamment tous les jours du gazage et du matraquage sur les pauvres personnes qui squattent dans la nature sans rien.
Et désormais, on va parler d'une bonne nouvelle.
C'est sur Vimeo et c'est en accès libre. Regardez ailleurs.
Donc, une bonne nouvelle, je disais, c'est la victoire. Oui, il y en a en ce moment. C'est la semaine dernière, mercredi dernier, les Chibaniers marocains, anciens travailleurs de la SNCF, ont obtenu gain de cause contre leur ancien employeur. Ces 848 travailleurs se sont vus reconnaître par la justice le préjudice causé par les mesures discriminatoires de la SNCF. Pour vous resituer le contexte, ces travailleurs sont pour beaucoup arrivés dans les années 70 dans le cadre d'une convention entre le Maroc et la France. Parce que étrangers, ceux-ci s'étaient vus embaucher avec des CDI de droit privé pour travailleurs étrangers. C'est-à-dire que ces travailleurs étaient exclus du statut beaucoup plus avantageux de cheminots dont profitent toujours leurs collègues français. Concrètement, la vie de ces travailleurs, c'était loger dans des bungalows insalubres au bord des chemins de fer, avant d'être logé peut-être ensuite dans des appartements tout aussi insalubres, une hiérarchie souvent irrespectueuse et évidemment un travail particulièrement éprouvant. Tous les jours, installer des traverses de rails pesant entre 50 et 80 kilos, accrocher les wagons les uns aux autres, bref, on est loin de l'image du cheminot feignant que nous dépeignent régulièrement les médias. D'autre part, le fait d'être simple contractuel se traduit par une différence de traitement très importante par rapport à leurs collègues français. Déjà, ils ne pouvaient bénéficier qu'en partie du système d'échelon de la SNCF et donc de toute perspective de carrière au sein de la SNCF. Les Chibaniers étaient tout simplement cantonnés au poste d'exécutant jusqu'à leur fin de carrière. Et donc, en fin de carrière, obtenir un poste moins pénible était aussi tout aussi difficile. Aussi, également, ils ne pouvaient bénéficier des centres de soins gratuits de la SNCF, mais devaient payer eux-mêmes leurs soins. Quant au fameux voyage payé aux frais de la princesse par la SNCF, ils n'y avaient pas droit non plus. Et surtout, et c'est ça qui a poussé les Chibani à s'engager contre leur ancien employeur, c'est une retraite de misère, 350 euros mensuels, loin de celle des autres cheminots. Donc face à cette situation, un de ces cheminots, Ahmed Katim, s'adressant en vain aux différents syndicats, notamment la CGT, qui en fait furent tous indifférents à leurs problèmes. Seul le syndicat Sudrail accorda de l'intérêt et soutena leur lutte. Rapidement, Ahmed Katim immobilisa de nombreux travailleurs concernés à travers toute la France et une bataille judiciaire s'engagea. Aujourd'hui, ces travailleurs ont remporté leur combat. Ils recevront des dommages et intérêts s'élevant à près de 170 millions d'euros, soit un maximum de 279 000 euros par ancien employé. Alors cette lutte victorieuse, elle témoigne d'une réalité qui n'est pas si lointaine au sein de notre pays. Après la colonisation, les travailleurs d'origine maghrébine furent exploités en masse comme main-d'œuvre bon marché. Une main-d'œuvre qui a fait le bonheur des entreprises et des grands capitalistes durant les Trente Glorieuses, ce qu'on appelait à l'époque les OS étrangers. La gestion de cette main-d'œuvre, elle empruntait beaucoup à l'héritage colonial, une gestion différenciée des travailleurs via en fait des catégorisations ethniques, bon, c'est-à-dire qu'on cantonnait les travailleurs étrangers à certains postes. Dans ses travaux sur l'usine Renault-Billancourt, l'historienne Laure Pitty révèle d'ailleurs que la transposition de schèmes expérimentés pendant la période coloniale sur les Nord-Africains était particulièrement présente dans les dispositifs de gestion et d'encadrement de la main-d'œuvre des OS étrangers au sein de cette même usine. Donc cette discrimination structurelle, qui était aussi le fait des grandes confédérations syndicales qui avaient que peu d'intérêt pour ces travailleurs, était particulièrement présente. Cette histoire et les luttes de travailleurs immigrés qui y sont liées est révélatrice de la permanence du fait colonial dans notre société et la permanence des discriminations raciales dans le monde du travail et d'un racisme institutionnalisé et normalisé en France.
On continue avec la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui a fait l'objet d'une véritable ovation de la part des députés La République En Marche. Alors pourquoi cette ovation ? Est-ce qu'il aurait amélioré la transparence des comptes, pris des mesures sévères qui empêcheraient le détournement d'argent public ? Eh bien non, malheureusement, s'il a été applaudi, c'est pour être accusé de viol. Oui, si vous ne comprenez pas, moi non plus, pas vraiment finalement, mais en fait, il fait l'objet d'une enquête préliminaire pour viol qui a été réouverte quelques jours avant donc ces applaudissements de soutien de la part de ses petits camarades de l'Assemblée nationale. Il est accusé par Sophie Spatz, désolée si j'écorche son nom, à l'époque sympathisante de l'UMP. Donc, elle dénonce un abus de faiblesse et de pouvoir exercé par Gérald Darmanin, qui était au moment des faits secrétaire de l'UMP chargé de mission au service des affaires juridiques. Il aurait exercé à son encontre une pression morale extrêmement forte pour avoir des relations sexuelles avec elle, alors qu'elle était embourbée dans une affaire judiciaire qui nécessitait son aide donc en tant que chargé de mission au service des affaires juridiques. L'avocate de Sophie Spatz a expliqué que sa cliente a exprimé clairement son refus d'avoir des relations sexuelles avec Darmanin et qu'il s'agit donc clairement d'une rupture de consentement et d'un viol par surprise. Il est donc vraiment difficile de ne pas prendre ces applaudissements de Darmanin comme un signe de soutien à son égard et donc finalement de soutien à l'égard de tous les hommes qui peuvent être mis en examen, qui peuvent faire l'objet d'enquêtes pour viol. Marlène Schiappa a rappelé que s'il était mis en examen, justement, il devrait quitter le gouvernement. Mais ça semble peser peu face à l'élan de compassion de la part de ses collègues qui le décrivent, qui rappellent qu'il est un collègue très clair, très rigoureux, très attentif dans ses relations.
Et probablement un cousin de Jonathan Daval, voilà. On en parlera après.
Revenir sur le contenu de l'affaire, en plus il est fort probable que la justice patriarcale ne poursuive pas l'accusation et que Gérald Darmanin s'en tire plus de justification, puisque déjà les médias et les soutiens de Gérald Darmanin mettent en avant l'ancienne activité de call girl de Sophie Spatz pour la discréditer. Et donc, on peut voir plusieurs formulations dans les médias. Une ex-call girl a déposé plainte pour viol, agression qui aurait lieu en 2009. Donc, l'association, dans une même phrase, essaye de montrer l'incohérence d'une accusation de viol de la part d'une call girl. Bon, c'est des procédés assez classiques d'euphémisation de l'agression subie ou de tentative de discréditation de la victime. Et on espère très fortement que Gérald Darmanin sera mis en examen, même si... Avec la culture du viol qui règne et la justice patriarcale, c'est peu probable.
On peut rajouter que cette standing ovation dont il fait l'objet arrive au moment où il fait le discours après le vote d'une loi sur le droit à l'erreur. Ce qui envoie un message très très clair en fait, aux violeurs, c'est qu'ils ont le droit de violer.
Et oui, et pour poursuivre dans les brèves du patriarcat, cette semaine a encore été riche en bons gros connards de base. Alors, hormis l'affaire Darmanin dont on vient de parler, ou même l'instrumentalisation fasciste d'un crime sexiste dont on a aussi parlé en début d'émission, on a eu pêle-mêle l'inculpation de Tariq Ramadan, les aveux d'un veuf épleuré, un procès pour pas moins de 265 agressions sexuelles aux États-Unis et en prime du gros féminisme bashing toute la semaine. Alors pour Tariq Ramadan, ça fait plusieurs mois qu'il est accusé par différentes personnes d'agressions sexuelles, notamment sur mineurs, à chaque fois avec des détails particulièrement gore. On en a pas mal entendu parler, notamment parce que ses victimes faisait l'objet d'une campagne de diffamation et de dénigrement particulièrement violente, notamment relayée notamment par les médias, qui était orchestrée par l'entourage de Tariq Ramadan, qui dénonçait un complot sioniste. Ouais. Sinon, je le disais à l'instant, donc la semaine dernière se déroulait le procès d'un entraîneur de gymnastique coupable de pas moins de 265 agressions sexuelles au cours de sa carrière. Donc voilà, un pélo peut commettre vraisemblablement 265 agressions sexuelles sans être inquiété. Ça fait rêver. Mais l'histoire la plus symptomatique de la solidarité que tous les agresseurs peuvent trouver partout dans la société reste quand même celle de Jonathan Daval, le meurtrier si innocent. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas BFM, en gros c'est l'histoire somme toute banale.
Toi tu regardes souvent BFM.
Ouais. On espère pour vous que vous ne regardez pas trop parce que c'est mauvais pour la santé quand même.
Donc en gros c'est l'histoire d'un veuf épleuré, qui pleurait beaucoup donc, hein, de la mort de son épouse tuée lors de son jogging. Alors 3 mois de chouin-chouin et de marche blanche. 3 mois après, pardon, il vient de se souvenir qu'en fait c'était lui qui l'avait tué avant de maquiller froidement son crime. Alors c'était pas vraiment des aveux spontanés, hein, c'est qu'il avait laissé un peu trop d'indices que la police a fini par découvrir. Le repenti a donc expliqué aux enquêteurs avoir été victime de violences conjugales pour justifier son crime. Et donc, bien sûr, c'est la personnalité de la victime, ses supposées violences conjugales de sa part à elle. Alors, uniquement sur le témoignage d'un pélo qui, je le rappelle, a passé 3 mois à lancer des appels pour trouver le meurtrier de sa femme et à mentir à tout le monde. Donc, c'est sur la foi de son témoignage à lui que les journalistes, une fois de plus, se mettent en accusation déjà la victime. C'est elle dont on décortique la personnalité.
Les absents ont toujours tort. Hein.
Oui, c'est sûr. Jonathan Daval est quant à lui présenté comme un homme dévasté face à la personnalité écrasante de son épouse et donc contraint finalement à la buter. Hein, au bout d'un moment, quand les gens en face sont trop écrasants, plus vraiment de possibilités apparemment. Alors moi, je comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique comment les journalistes qui se font mener en bateau pendant 3 mois reprennent mot pour mot ces déclarations sans utiliser de guillemets, enfin les déclarations qu'il a fait à la police. Alors ça pourrait être drôle si on savait pas que quand une femme témoigne de violences qu'elle subit, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, la plupart du temps, ces témoignages sont remis en cause. On n'est tout simplement pas cru. On nous demande des justifications et voilà, en général, c'est la porte ouverte à tout un tas de maltraitances. On l'a vu notamment avec les victimes de Tariq Ramadan. Alors... Je fais une pause parce que je m'apprête à parler d'un membre du gouvernement sans le défoncer. Donc éteignez la radio si vous êtes sensible. Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, a dû, après avoir qualifié ce crime de féminicide, depuis deux jours, fait l'objet d'attaques de la part des journalistes et de l'avocat aussi de Jonathan Daval, mais pour se justifier sur l'emploi du terme féminicide, quoi. C'est-à-dire que le simple fait de qualifier, de venir qualifier le crime de féminicide fait d'elle, enfin voilà,
une féministe hystérique.
Voilà, une féministe hystérique. Bah d'ailleurs, tu me fais mes transitions, c'est parfait. Justement, l'avocat de Jonathan Daval, le tueur, hein, Jonathan Daval, le tueur. Je le rappelle quand même, pour son avocat, Marlène Schiappa s'excite toute seule. Donc voilà, souvent les reproches qu'on fait aux féministes dès lors qu'elles dénoncent des violences sexistes. Mais la palme est décernée au magazine Causeur, hein, qui reçoit...
Closer.
Causeur.
Causeur. Ah ouais.
Les deux existent. C'est Elisabeth Lévy, Causeur. Ah ouais.
Mais à qui vous faites que moi sur les revues.
C'est rassurant. C'est
côté BFM.
Une revue masculiniste notoire. Plutôt rassuré que tu connaisses pas.
C'est pas la première fois que je leur décerne la palme.
Exprès pas connaître.
Il a fait semblant.
Donc, Causeur, toujours numéro un sur la connerie, qui a eu le bon goût, attention, d'intituler un article. Jonathan Daval, le nouveau Jacqueline Sauvage.
Ah ouais.
Du coup, voilà, on est à deux doigts de
l'indécence du patriarcat.
D'une campagne contre les violences conjugales subies par les hommes. Ça fait quand même flipper. Alors, juste à titre informatif, l'adresse du siège social du siège de Causeur, c'est 32 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 10e à Paris. Si des copines parisiennes passent devant. Voilà, voilà. Donc, je rappelle à toute fin utile qu'une Française sur deux a été victime d'agression ou de harcèlement sexuel dans sa vie. Je rappelle qu'au moins 115 femmes ont perdu la vie parce qu'elles étaient des femmes en 2017 en France. Je rappelle que la semaine dernière, au moins 4 femmes ont été tuées ou... Il y en a une qui est encore entre la vie et la mort. Dimanche, en Loire-Atlantique, une femme de 48 ans qui s'est fait tirer dessus par son ex-compagnon. Lundi, une femme de 43 ans a été poignardée puis brûlée par son compagnon en Haute-Loire. Mardi, c'est une femme qui a été battue jusqu'à la mort à Limoux. Jeudi, dans le Nord, une femme de 46 ans qui a été abattue au fusil de chasse par son compagnon. Depuis le mois de janvier, au moins 10 femmes ont été poignardées, tuées par balles, étranglées, défenestrées par leur compagnon ou ex-compagnon. Elles s'appelaient Catherine, Candice, Sylvie, Jessica, Georgette, Laurie, Ager, Nadia, Séverine. Alors... À tous ceux qui s'approprient nos corps, les moquent, les soumettent, les violent, les mutilent, à ceux dont le silence est coupable et à ceux qui participent de près ou de loin à l'ensemble des dispositifs qui rendent possibles ces violences, sachez que nous, on n'oublie pas et on pardonne pas.
Alors, sans transition, sur un sujet aussi facile que celui qui vient d'être dit, voilà, donc on va passer sur une nouvelle un peu bonne. Il y en a une deuxième dans cette émission, et oui, ça arrive quand même dans cette émission. À Paris 8, eh bien, depuis quelques jours, les locaux, un local est occupé, un bâtiment, le bâtiment A est occupé donc depuis le mardi 30 janvier par des réfugiés et leur soutien. Il y a eu donc l'installation de dortoirs, une salle de repos et d'informatique, une cantine. C'est donc une nouvelle belle action de solidarité qui s'est mise en place depuis une université envers des réfugiés. Jusque-là, pour ces réfugiés-là en tout cas, condamnés à l'errance de la rue, dans le quartier de la Chapelle à Paname. Alors, leur communiqué, il dit « Notre occupation s'inscrit dans le mouvement général de protestation contre les politiques migratoires indignes ». Et ce communiqué pointe également le règlement Dublin qui serait, je cite, responsable de l'expulsion des exilés vers les périphéries de l'Europe. Et toujours dans le communiqué, il appelle à s'organiser et à organiser la contestation contre la loi Asile et Immigration et la circulaire Collomb. Alors au tout début, la direction de la fac a été hostile à cette occupation avant d'accéder à plusieurs revendications du collectif comme accès aux douches, pas de vigile dans le bâtiment A et suppression, et ça c'est très bien, hein, les autres aussi, hein, mais suppression des contrôles des cartes d'étudiants à l'entrée de l'université. Et chose belle, l'Assemblée Générale qui s'est tenue la semaine dernière à Paris 8 appelée contre la sélection, a voté la défense de l'occupation du bâtiment A. Et c'est d'ailleurs probablement pour cette raison que la direction a fini par céder, par peur d'un embrasement éventuel suite à une intervention policière. Alors, solidarité avec les occupants de P8. On rappelle que ce type d'occupation a eu lieu dans d'autres villes de France, à Nantes, à Grenoble, à Lyon, et qu'il en faudra probablement encore beaucoup d'autres dans les semaines et les mois à venir.
Et maintenant, on passe au local, avec une spéciale dédicace au président de la métropole, David Kimfield, qui s'est fait enfariner ce cher militant anti-squat qu'est David Kimfield, qui a tout récemment voté un budget de 1,8 million d'euros pour empêcher les bâtiments vides de la métropole d'être squattés. Et ce, alors que des familles, enfin des hommes, des femmes, des enfants, crèvent de froid dans la rue, hein, à deux pas de la métropole. Bon, allez, sans rancune, Monsieur Kimfield, et on espère que ça ne sera pas le dernier enfarinage.
Et le même Kim Elfeld qui siège également au conseil d'administration de la Citral, qui nous ont fait qui nous ont pris une belle décision ce vendredi. Oui, encore une mauvaise nouvelle pour les pauvres, puisque le conseil d'administration du Citral, le Citral, c'est l'organisme qui gère les TCL, hein, a voté l'augmentation du prix du ticket de 10 centimes et celui de l'abonnement mensuel de 40 centimes. Et oui, si ça peut permettre d'éliminer un peu les pauvres du réseau, ça fera de mal à personne. Alors, pour faire passer cette augmentation bien puante, Keolis sait faire des miracles. L'entreprise a acheté 55 diffuseurs d'odeur thé vert agrumes pour embaumer les stations du métro lyonnais.
D'où la décision bien puante avant. T'as fait, c'est pour
oui,
ça.
Oui, je démonte. Ouais, merci de l'avoir souligné.
Non, c'était au cas où.
Et c'est pas fini. Ouais.
Non, mais là, il faut pas faire des choses comme ça. La blague, elle est subtile, c'est bien.
Et parce que c'est vrai, quand même, les pauvres, ça sent pas très bon. À 1000 euros le diffuseur, c'est quand même un joli cadeau. Alors, si vous avez encore les moyens de prendre les transports en commun, oui, parce que je rappelle que l'amende avait déjà bien augmenté l'an dernier. Maintenant, c'est 60 euros minimum. Mais donc, si vous avez encore les moyens, pas d'inquiétude si votre station n'est pas encore dotée de ces petits appareils qui feront de vos séjours en sous-sol de véritables instants de bonheur et de relaxation. Pas d'inquiétude, Keolis entend développer cette merveille de technologie fort utile, hein, vraiment, dans tout un tas d'autres stations et même dans les bus, les tramways, etc. Parce que, comme l'affirme le directeur de la société de parfums d'ambiance, l'odorat est le sens qui a le plus de mémoire. Une bonne odeur peut avoir un effet apaisant sur les usagers, améliorer un sentiment de propreté et de sécurité. Le parfum est un élément de confort, tout comme la luminosité et les prix des billets exorbitants. Alors, en tout cas, moi, je trouve que ces campagnes anti-pauvres de TCL, ça pue quand même un peu la merde.
Mais moi, je pense que quand tu te fais courser par des contrôleurs parce que t'as pas payé, eh ben, une petite odeur de thé agrume comme ça, eh ben, ça te met bien direct. Hein.
Ça peut donner un peu de chance. Merci Keolis, merci le Citral et merci TCL pour tous ces instants de bonheur qu'on vit tous les jours grâce à vous.
Et merci Lyon. Hein, et vous avez aimé Gérard Collomb, maire de Lyon. Vous kiffez toujours GG en chef des keufs. Vous allez adorer Caroline Collomb, son épouse, chef dans le Rhône de La République En Marche et en bonne voie de succéder à son mari comme il se doit souvent dans nos démocraties bourgeoises, pas du tout patriarcales. En l'occurrence, on imagine tout à fait Caroline bénéficier aux prochaines élections du parrainage de son mari et d'une couverture médiatique à son avantage, mettant en avant l'aspect familial, tradi et à la fois moderne. On vous rappelle qu'au pays des violeurs applaudis à l'Assemblée nationale, une femme a un poste de pouvoir, c'est moderne. Et si Caroline Collomb a quand même de très fortes chances de l'emporter, on ne refait pas Lyon comme ça, on se fait très peu d'illusions sur la politique qui sera menée dans la continuité du GG, répressive, raciste, xénophobe, élitiste, crapuleuse, à l'image de celle menée par le gouvernement et sa majorité parlementaire. Et puis l'ombre de GG sera là un peu aussi, on imagine, comme ça se fait à chaque fois qu'une femme d'homme important lui succède. Petite dédicace pour terminer à Lyon Mag, qui dans son article sur l'ascension de Caro Collomb a l'élégance de procéder à la féminisation de l'expression « mouiller la chemise ». Les femmes, c'est bien connu, ne portant pas de chemise, Lyon Mag se fend d'un délicieux « elle mouille le corsage ». Classe.
Wow. Et maintenant, ça m'a coupé.
Ça a mis un blanc direct, hein, ouais. Elle a été séchée quoi.
Bon, nouvelle dédicace cette fois, dédicace au Bab tout solide lyonnais,
ouais.
Logan Jean. Et on vient juste d'apprendre que ce cher Logan Jean, chef du GUD, est incarcéré à la prison de Corbas depuis le mois de décembre. Ah, et on n'a pas été informé avant, merde quoi. Oh. Pour rappel, le patron du GUD a été condamné en 2016 pour avoir violemment tabassé et même violé, disons, son prédécesseur à son domicile. Il avait écopé d'un an de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Et récemment, visiblement, il a aussi été condamné pour violence contre des militantes féminines, d'où l'incarcération. Du coup, on lui passe un petit coucou.
Ouais, hein. Bab tout solide, hein. J'espère que c'est pas trop dur la prison pour un Bab tout.
Des poutous.
Ouais, voilà.
Bisous.
Sans transition.
Oui, bah non, juste pour dire, on l'avait appris il y a deux semaines, hein, Carrefour va licencier massivement dans ses rangs et ils vont fermer tout un tas de magasins parce que l'e-commerce, c'est quand même vachement mieux et en plus, ça évite d'embaucher des gens. Alors, c'est un quart des salariés du groupe qui sont menacés de perdre leur emploi. Et du coup, dans le Rhône, il y a 10 établissements qui sont concernés. C'est les établissements qui appartenaient auparavant au groupe DIA. Donc, Lyon-Centre, Saint-Priest, Rieux-la-Pape, Décines, Givors, Pierre-Bénite, Amplepuis, Vénissieux et Villeurbanne. Donc, on espère que la mobilisation va prendre. Il y a une première journée qui est appelée par FO le 8 février. Et voilà, on va suivre ça avec attention. On appelle à soutenir toutes les actions des salariés qui vont quand même subir un plan social de très, très grande ampleur.
Et il est 19h36 et il est temps de passer à notre dossier du jour sur l'IDEX à Lyon. Donc pendant que nos invités s'installent, je me permets d'introduire ce dossier. Donc l'IDEX, qu'est-ce que c'est ? Ce terme, en fait, on dit IDEX ou Initiative d'Excellence, c'est en fait un label décerné par l'État aux établissements d'enseignement supérieur pour les pousser à fusionner et à se restructurer. Pour être plus précis, les initiatives d'excellence sont un programme qui a été lancé dans le cadre des investissements d'avenir en 2009, qui sont des investissements octroyés sur projet par l'État à des secteurs dits innovants, c'est-à-dire, entendre là, des secteurs qui rapportent des sous. Parmi ces secteurs, l'enseignement supérieur et la recherche ont été considérés comme prioritaires et reçoivent les parts de budget les plus importantes. Ainsi, les IDEX consistent donc à soutenir, par un effort financier exceptionnel et au détriment des autres établissements d'enseignement supérieur, un nombre limité de projets ou de sites sélectionnés avec un budget de, dans tout, 7,7 milliards d'euros au total. L'IDEX vise à faire émerger 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d'enseignement supérieur et de recherche de rang mondial, c'est-à-dire former des universités géantes comme Aix-Marseille pour pouvoir être bien placées au classement de Shanghai. Et juste avant de laisser la parole à nos invités, donc si je peux permettre de bien résumer, vu que c'est un sujet complexe, je me permets de bien caricaturer un peu. L'IDEX, en fait, c'est créer d'énormes universités gérées comme des entreprises, donc sans contrôle démocratique, et ce au service d'une recherche et d'un enseignement soumis à la rentabilité économique, mais aussi à un enseignement réservé à une élite, et accessoirement une université au service des multinationales présentes dans les CA. Donc, me permet d'introduire nos deux invités. Donc, si vous pouvez vous présenter.
Léo Mouillard-Lample, donc membre du collectif IDEXIT.
Oui, et moi c'est Rémi, donc membre aussi du collectif IDEXIT, qui est un collectif qui s'est lancé il y a quelques mois, un collectif inter-établissement sur Lyon, justement pour mobiliser et puis auparavant informer sur toutes ces questions liées à l'IDEX.
Du coup, tout d'abord, est-ce que vous avez des choses à rajouter à ma définition de l'IDEX
Alors, je rajoute deux petits trucs, justement, parce que t'as rapporté le fait qu'il y a un certain nombre de milliards qui sont alloués aux IDEX et le fait que l'objectif, c'est devenir très, très gros pour être visible et remonter sur le classement de Shanghai. Juste pour montrer déjà par un premier exemple à quel point c'est purement de l'ordre du discours de l'État, ces milliards, c'est du vent parce qu'ils sont seulement placés dans un coin et les établissements en toucheront les intérêts qui sont minimes par rapport à leur budget. Et sur le cas de Shanghai, il faut bien se souvenir que même si Shanghai est un classement complètement pourri, ceux qui s'en sortent bien dans Shanghai sont des petits établissements. Et que grossir n'est vraiment pas une bonne idée, même pour être bien classé à Shanghai, quoi.
D'accord.
Je rajoute pour donner une idée un peu du fait que ce soit minime, c'est les intérêts, ça va être 12 millions d'euros sur un budget de 1 milliard d'euros à Lyon, par exemple, 1 milliard, 1,5 milliard. Donc c'est vraiment peanuts.
Justement, en parlant de Lyon, est-ce que vous pourriez nous résumer la situation à Lyon vis-à-vis d'IDEX quand est-ce que ça a commencé, où on en est actuellement et qui en sont les acteurs ?
L'IDEX a commencé avec les premiers appels à projets en 2010. Lyon a candidaté déjà dès 2012 à la première vague où par exemple Toulouse a reçu l'IDEX. Lyon a été rejeté à cette suite et puis le ministre est intervenu pour modifier un peu les règles du jeu et donner à Lyon un rattrapex.
Ça s'appelle pas comme ça, mais...
Voilà, c'est
C'est l'actuel chef de projet qui a trouvé le nom quand même.
Exactement. Et du coup, Lyon a fait une nouvelle candidature en 2016 et a eu le feu vert en 2017. Donc, à côté, Toulouse est toujours pas sorti de l'IDEX. Ils sont aussi dans une sorte de procédure rattrapex puisqu'ils ont eu des problèmes. Ils ont pas réussi à mettre tout en place. Donc voilà. Et là d'ailleurs aujourd'hui, on salue nos camarades toulousains qui sont en grève, notamment au Mirail.
Oui, voilà, il y a pas que Toulouse, mais actuellement ça bouge pas mal là-bas pour montrer qu'on n'en est pas encore sorti parce qu'ils l'ont eu 4 ans avant nous, quoi.
Et en fait, la façon dont c'est fait, ça montre bien que tout est fait pour que les universités et les établissements aient l'IDEX. C'est-à-dire que même les ministres interviennent pour changer les règles de ce jury international qui décerne les IDEX. Parce qu'on ne peut pas se passer d'une IDEX à Lyon, en fait, qui va, avec Toulouse, se trouver comme des chefs de projet de ces IDEX à l'échelle nationale. Et donc... la façon dont c'est fait, rajouté au fait que ça ne rajoute ça ne donne que très peu d'argent aux universités, ça montre bien que l'IDEX n'est pas un projet des universités, mais plutôt une réforme de l'État qu'elle fait passer en douce via ses appels à projets.
Et donc, à Lyon, du coup, on en est où dans le processus actuellement ?
Alors, le processus lyonnais actuellement, donc février 2017, on reçoit ce fameux label, alors là, champagne, et puis alors, on était tellement occupés à boire notre champagne que pendant ce temps, ils ont bien avancé le projet en douce. Et tout ça, donc grand silence ensuite pendant plusieurs mois, et en octobre, on a un document qui arrive qui s'appelle « Principe incontournable de l'université cible ». Alors, on l'avait pas vu venir, et c'est dommage parce qu'ils sont incontournables, et qui nous liste un certain nombre de mesures, alors je pourrais revenir dessus, qui ont immédiatement catastrophé pas mal de monde dans le milieu académique, comme on dit, comme ils aiment bien dire en tout cas. Et alors, spécificité du projet à Lyon, enfin un peu comme ailleurs, quand même une opacité incroyable, et qui ce fonctionnement sur le mode de l'urgence est typique de « on vous parle pas pendant des mois, mais on bosse en scred ». Et ensuite, d'un coup, il faut voter très vite, il faut vite, on vous passe les documents, mais c'est fini, on n'a plus le temps de les éditer. Puis vous vous rendez compte, on a dû travailler à 12 établissements pour pouvoir les faire, alors, hein, quand même pas à corriger maintenant.
Et justement, c'est qui ce « on » ?
Alors ce « on », c'est nos chefs d'établissement, qui sont coordonnés au sein de l'Université de Lyon. Donc c'est une espèce de surcouche qui est en place actuellement, mais qui va du coup dégager avec leur fameuse université cible post-fusion. Mais voilà, donc c'est des chefs d'établissement qui discutent entre eux.
Et donc les établissements, c'est l'INSA, oui. Lyon 1...
Bah déjà les quatre facs.
Exact,
Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Saint-Étienne. Ouais. Et ensuite une batterie d'écoles autour.
Et l'ENS, l'INSA,
Sciences Po, qui sont les plus impliqués. Aussi. Oui.
Nous, on veut des noms, en fait. C'est qui mène la danse ?
Quelqu'un intervient pour dire qu'il n'y a pas l'an 2. Oui, alors ça, on y reviendra. Mais justement, la question de l'an 2 est la question centrale actuellement.
Mais j'y venais. Désolé pour ça.
On a eu ce document.
C'est l'animateur de Cannabis Circus qui aurait lieu tout à l'heure, qui vient de rentrer dans le studio pour nous dire qu'il n'y avait pas l'an 2. Donc, du coup, c'est pas souvent qu'il fait ça. Donc là, il faut un peu se tenir à carreau, quoi.
Bref, tout ça pour dire, voilà, on a eu ce document qui présentait alors tout un tas de trucs, on y reviendra, mais qui attaque directement le statut de fonctionnaire des enseignants-chercheurs. On parle même pas des personnels supports, on se demande s'ils existent encore, qui écrit noir sur blanc la sélection des étudiants sans passer par les artifices qu'il y a actuellement du côté du ministère. Enfin bon, un certain nombre de trucs qui sont vraiment problématiques. Évidemment, la fin du fonctionnement démocratique des universités. Sur la base de ces trucs-là, de nouvelles discussions ont commencé à avoir lieu en secret. Maintenant qu'on nous avait présenté ces fameux principes sur lesquels personne n'a jamais fait voter les gens parce qu'on savait bien qu'ils étaient contre. Et les discussions se sont entamées entre établissements, et donc on a appris dernièrement que 5 établissements étaient tombés d'accord pour construire un truc. Donc Lyon 1, Lyon 3, Saint-Étienne, l'INSA, l'ENS. Et les autres qui étaient dans la course au début restent membres associés et intégreront peut-être plus tard, y compris Lyon 2, qui est dans une position très particulière en ce moment, qui s'est fait jeter par les autres, parce que Lyon 2 est le seul établissement qui a justement, dont la présidence a râlé contre les fameux principes. A suffisamment râlé pour qu'elle ait fini par se faire complètement jeter par les 5 autres et se retrouve maintenant dans une position très problématique où elle sait qu'elle sera obligée, que ça soit à l'échelle locale ou par l'État, de réintégrer le truc un jour, mais ne participe même plus aux discussions.
Et justement, vu qu'on en parle beaucoup de ces principes incontournables de l'université cible, est-ce que tu peux redétailler contenu, en fait, qu'est-ce que ça va être l'université IDEX à Lyon, en fait ? C'est ça la question aussi.
Alors ça sera... Alors déjà, ça sera une surcouche de plus, on a envie de dire. Enfin, on en a connu, c'est la cinquième, je crois, à Lyon, de coordination qui tente. Il paraît que ça va être une immense simplification administrative. Bon, première conséquence, c'est les fameuses économies d'échelle. Hein, donc, on va virer du monde.
Ils ont bon dos, en général, les chocs de simplification.
Oui, voilà, ça va être un vrai choc. C'est censé être mis en place pour le 1er janvier 2020, donc ça approche. Hein. Donc, qu'est-ce que ça aura comme conséquence un petit peu pratique ? Bon, on l'a dit, sur les personnels, il y aura des grosses restructurations. On entend déjà parler aujourd'hui de fusion de certains services à l'échelle de plusieurs établissements. Par exemple, les systèmes informatiques sont déjà en train de travailler dessus. Ça aura pour conséquence une centralisation de la répartition des moyens et des moyens financiers, des moyens ressources humaines. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il faudra dire qui va avoir des profs cette année, il y aura peut-être un peu moins pour les facs et un peu plus pour les écoles. Bon, c'est déjà ce qui avait lieu à l'échelon national du simple fait que les budgets étaient alloués nationalement. N'empêche qu'on va reproduire en local ces inégalités en les amplifiant du coup à chaque nouvelle couche. D'autant plus que tous ces établissements étant fusionnés en un seul, lorsque tu mets plein d'établissements, puis que ça devient juste des parties d'un gros machin, il faut définir clairement leur mission. Il n'y a pas deux personnes qui vont faire la même chose au sein du nouveau truc. Donc ça consacre encore un peu plus les quelques écoles, donc hop, ingénieurs, INSA, et puis la grande école d'excellence à l'ENS, comme étant justement les excellents, ceux qui vont avoir des sous, ceux qui auront de quoi financer une recherche performante, comme on dit, et qui feront avancer la recherche, etc. Et puis les universités avec leurs dizaines de milliers d'étudiants qui accueilleront la masse et leur donneront des formations en 3 ans professionnalisantes, mais en tout cas n'auront plus la prétention, les missions de l'université française à délivrer un savoir, à faire vivre une connaissance.
Ça aura l'avantage de s'accorder assez bien avec la réforme de la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur.
Et la réforme du bac.
Au moins, il y aura
ils ont le mérite de la cohérence.
Bon, oui, voilà. Justement, on peut y venir depuis
30 ans.
Si vous voulez, tout de suite, quels sont les liens avec l'actuel plan étudiant, justement, et avec plus généralement les politiques de l'ESR depuis les années 2000.
Les liens avec la nouvelle loi d'orientation et de réussite des étudiants, c'est aussi que ça renforce cette idée de sélection qui était déjà présente. Enfin, là, on amène subtilement l'idée d'une sélection sous l'idée de supprimer le tirage au sort pour installer dans les universités à flux un peu tendu de bacheliers, de faire plutôt de mettre en place des attendus qui vont pouvoir être fixés à l'échelle locale. Donc ce seront les établissements qui se mettront en compétition en gérant leurs attendus, puisque dans le cadrage national, ces attendus, ils ont absolument ils sont totalement délirants. Pour faire de la musicologie, par exemple, il faut avoir fait de la musique, même d'ailleurs toutes les facs de musicologie, d'histoire de l'art, d'histoire,
c'est super vague, quoi.
C'est très vague, et tous c'est les mêmes attendus. Il faut être intéressé par les disciplines artistiques, voilà. Donc et l'idée, c'est après vraiment de continuer avec une autocensure, puisque dans Parcoursup, on diminue le nombre de vœux. De 24, on est passé à 10. Et donc voilà, là, on est vraiment sur une sélection qui se fait venir petit à petit à l'entrée du bac, et qui va être consacrée dans les études.
Là où surtout...
Justement, je suis désolé. J'ai aussi entendu dire que l'IDEX, ça comprenait de créer une espèce... Vous parliez de fusion des services, un institut des licences, justement, qui doit être créé dans la même veine pour justement...
Alors, il s'agit en effet de créer de regrouper les filières du premier cycle, donc en partie la licence, dans un institut qui serait globalisé sur tout ce machin. On voit un petit peu la même chose à Saclay. Enfin, c'est pas une idée qui est nouvelle, de séparer la licence du reste, et ça va encore dans le même sens. C'est-à-dire que la licence, l'université, la vraie, celle où on fait de la recherche, celle où on transmet du savoir, commencera à l'entrée du master et dans certains établissements. La sélection permet ça aussi. C'est pas, on entend beaucoup que la sélection va fermer les portes du supérieur à des étudiants. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment l'objectif pour moi, mais c'est plutôt de permettre à quelques-uns de sélectionner. Et puis ensuite, les autres, on les rangera quelque part, on trouvera, enfin, on en mettra dans les escaliers des amphis, c'est pas un problème. Mais vraiment, ça continue et ça poursuit dans le sens de réformes qui se mettent en place petit à petit depuis 20 ans, de la création d'un système universitaire à deux vitesses. C'était déjà un petit peu le cas dans les usages, mais ça va devenir ancré dans la structure du système d'enseignement supérieur.
Puis c'est pas de la paranoïa, c'est marqué très clairement dans les rapports, un rapport en 2007 qui a été publié, le rapport Maestat, qui dit très clairement faire une université avec des pôles d'excellence et des établissements professionnalisants à base locale.
Oui, et c'est ce qu'on disait la semaine dernière à ce sujet-là, c'est aussi une manière de trier la main-d'œuvre pour le marché du travail, puisque le problème aussi de rendre l'université trop accessible, c'est que du coup en ressortent des personnes diplômées avec un bac plus 5, et là ça va permettre qu'une partie des gens qui passeront à la fac, en réalité la valeur de leur diplôme sur le marché du travail sera nettement inférieure à celle à ceux qui seront passés par les pôles d'excellence. Et voilà, du coup c'est aussi pour les capitalistes récupérer une main d'œuvre bon marché après ça.
Et puis les formations de licence vont être directement orientées sur les besoins précis des entreprises, voire d'entreprises en particulier.
Mais notamment, justement de...
Il y a des entreprises en particulier qui font partie des commissions qui décident de tout ça ou pas ou...
Justement, en fait.
C'était la question.
Alors, je voulais juste poser une question avant, justement. On parlait de diplômes à géométrie variable. Il y a des diplômes d'excellence, notamment. Et à Sophia Antipolis, l'ancienne université de l'actuel ministre Dominique Vidal, qui est en pleine IDEX, hein, qui est labellisée IDEX, a créé des masters labellisés IDEX. Et qui avec des frais d'inscription à 4000 euros.
Alors, c'est pas des masters. C'est justement, ça porte le nom de master dans le nom de la formation. C'est ça qui est traître légalement. C'est pas un master, c'est un diplôme d'établissement. Parce que les masters, c'est cadré nationalement. Mais par contre, on va, et via ces nouveaux cursus IDEX et d'autres appels à projets qui se passent en même moment, on va aussi lentement vers une fin du cadrage national des diplômes. Donc, la licence, le master, qui sont avec des frais d'inscription nationaux et une valeur nationale. Non, maintenant, si on met les établissements en concurrence, il faut que la valeur du diplôme te soit plus conférée par ton diplôme, mais par l'établissement où tu l'as passé. Justement pour reconnaître la valeur des bons établissements. Et du coup, ce cadrage national des diplômes, on le fait exploser comment ? Par l'extérieur, en proposant des formations, paraît-il, innovantes, mais qui sont à chaque fois des diplômes d'établissement. Donc l'établissement, c'est ce qu'il veut avec les frais d'inscription. Et généralement, ce qu'il veut, on voit ce que ça donne. L'Angleterre a fait exactement la même chose il y a quelques décennies, et on voit l'état dans lequel est le système d'enseignement anglais sur ce plan-là actuellement.
Puis c'est même pire qu'une incitation à aller vers des diplômes innovants, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé des masters, ils en ont supprimé quand même 11 à Nice pour mettre des masters en biologie. Par exemple, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de prendre un master, donc entre guillemets, labellisé IDEX, pour, qui coûtera 4000 euros par an.
Et justement, on en parlait juste avant, c'est quoi le lien des grandes multinationales, du grand capital avec justement l'IDEX et ses masters, quel poids ils ont
En fait, avec la fusion des universités dans l'université cible, on va aussi réformer le mode de décision et donc on aura un fonctionnement un peu plus proche des écoles que du fonctionnement des universités. Dans les universités, c'est à peu près 2/3, 3/4 de membres élus, un président qui est élu aussi. Et là, l'idée, c'est de mettre dans le CA de cette université cible 50% de nommés extérieurs et 50% d'académiques. Alors, académique, ça veut dire un peu tout le monde, le président, l'administration, les enseignants-chercheurs. Jamais il est fait, dans les principes incontournables notamment, jamais il est fait la mention du mot élu. Donc,
ça racle un peu la gorge, un élu, rien que quand on dit là ça.
Et à côté, c'est des nommés donc extérieurs. Pour vous donner une idée, c'est le fonctionnement de l'ENS de Lyon. Il y a des nommés, des extérieurs, plus le président qui a voix prépondérante. Donc autant vous dire que les élus n'ont aucun pouvoir. Et dans les nommés extérieurs, par exemple, il y a Lafarge, Sanofi, Natixis, voilà, que du beau monde qui décide de l'avenir des étudiants.
Il y a quelques temps, il y avait une certaine Frédérique Vidal aussi.
Je voulais aussi revenir sur un point qui me tient un peu à cœur, 5 minutes. C'est sur la gestion du personnel, et il y a un terme qu'on voit aussi souvent venir avec l'IDEX, c'est celui de tenure track. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu
Alors, c'est le fonctionnement américain, ça. C'est, pour le dire très schématiquement, c'est le précariat du maître de conf. Après avoir fait celui du thésard et de toutes les étapes intermédiaires, c'est lorsque tu arrives, que tu prends ton premier poste sera un poste précaire où tu es soumis à une à validation de ce que tu as fait au bout de 5, 6, 7, 8 ans. Et puis, si tu as été gentil, bah, à ce moment-là, tu auras un poste définitivement. Et sinon, bah, tant pis pour toi. Et ça, c'est le système américain actuellement. Alors, comment il sera décliné en France, on ne sait pas trop. Mais de toute façon, quelle que soit la façon dont il décline ça, c'est contradictoire avec le statut de la fonction publique actuellement. Et ben, on attend de voir ce qu'ils vont nous sortir, mais on s'approche probablement d'une fin du statut d'enseignant-chercheur dans la fonction publique. Ça, ça passe par quoi? Ça passe par la prochaine innovation qui nous vient. La loi portée par Darmanin, justement, avec le droit à l'erreur, contient aussi un tout petit article qui prévoit des ordonnances sur l'université pour le milieu de l'année, et qui permettrait de créer des statuts expérimentaux pour ces établissements. Donc on s'attend bien à ce que notre expérimentation, dont on sera un peu le projet pilote avec sa clé, nous réserve quelques petites surprises sur le statut des enseignants-chercheurs.
Et puis au bout d'une expérimentation de 10 ans, vous comprenez, on va quand même pas faire marche arrière. Hein, donc ouais. Bon, tant pis, la réforme est faite.
On est sur bon du lourd, en tout cas. Et justement, pour lutter contre ça, qu'est-ce qui se fait ici, localement?
Alors, il faut braver la neige demain. parce que alors, demain, à 14h, place Guichard, il y a la manif nationale contre le plan étudiant. Et puis, on avait aussi prévu un deuxième cortège contre l'IDEX. Mais avant ça, à 12h30, il y a tous les syndicats de Lyon 1, tous, peut-être pas tous, non pas tous, mais presque tous les syndicats de Lyon 1, qui appellent à une grosse AG juste avant le CA qui va voter sur la suite de l'IDEX. Donc c'est 12h30 demain à Lyon 1 dans l'amphi Jussieu, c'est à l'arrêt Université Lyon 1. Et il y a le CA de l'ENS qui va également voter la même chose vendredi, et donc un rassemblement sera, une AG sera aussi prévue vendredi matin ce coup-ci à l'ENS. Et la suite des mobilisations, eh ben, on verra, il reste encore beaucoup de CA qui vont certainement voter là-dessus. Et puis des cortèges spécifiques seront sans doute greffés sur les prochaines manifs nationales.
Et demain aussi à 14h, une manifestation place Guichard.
Mais ceux qui font l'AG à midi, ils ne seront jamais à 14h à la manif.
Alors ça, c'est le problème.
Il n'y a pas une assemblée générale à Lyon-Deux-les-Quais?
Oui, mais ça, on va peut-être le faire dans l'agenda, parce que c'est sur la réforme.
Une AG Lyon-Deux-Quais après la manif, ouais. À 17h.
Bon, bah, il est temps de conclure. Donc, si je peux juste résumer pour vous, hein, pour vos auditeurs, hein, parce que ça reste un sujet complexe. En fait, l'IDEX, c'est le nouveau cheval de Troie du gouvernement qui, au nom de la compétitivité et de l'attractivité, vise à restructurer l'ensemble de l'enseignement supérieur pour coller aux nouvelles exigences, enfin pour coller à un modèle américain. C'est juste un instrument pour foutre en l'air le modèle universitaire français et pour renforcer un enseignement élitiste au service de la seule bourgeoisie.
Bon résumé.
Eh bien, merci en tout cas. Et on va passer à l'agenda.
Alors l'agenda à l'arrache un petit peu. Donc demain à 14h, si vous pouvez vous joindre à cette lutte contre la réforme de la fac, l'IDEX et compagnie, c'est 14h place Guichard.
Et la réforme du lycée aussi, c'est-à-dire que les personnels de l'éducation nationale dans leur ensemble sont invités à rejoindre cette mobilisation.
Je crois qu'elle vient au départ.
À 17h, ouais. Donc à Lyon 2, à la suite de la manifestation, une assemblée générale interprofessionnelle,
voilà.
Contre la réforme d'entrée à l'université.
Voilà. Ensuite, il y a mercredi soir à 19h à Terre des Livia, une conférence Rebelles et rébellions Touareg au nord du Niger de 1990 à 2009, témoignages et analyses. Il y a souvent des trucs cool à Terre des Livres, alors si ça vous intéresse, allez-y. Et puis, en fait, je crois que c'est à peu près tout, à part l'assemblée de lutte dimanche prochain à l'Amphiz à Cusset, 12 rue Baudin. Voilà.
On n'en a pas parlé dans le local, mais il y a encore eu une manifestation pour Afrin, donc le canton kurde actuellement attaqué par la Turquie depuis maintenant 2 semaines, je crois, un peu plus. Du coup, il y avait une manifestation ce samedi. A priori, devrait peut-être y en avoir une de nouveau, donc on vous invite à checker régulièrement sur rebellion.info.
.info, voilà.
Seul site d'information.
Et y a également, mais ça c'est à l'échelle nationale, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une manifestation de solidarité le 10 février, samedi prochain. Donc si vous ne savez pas quoi faire ce samedi, vous pouvez vous occuper soit à Lyon, soit ailleurs en France.
Voilà, et il est 20h.
Il y a des bus, on peut y aller aussi en plus.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Il est 20h, on peut réécouter cette émission si vous n'avez pas tout compris sur les Dex. Le moyen de rattraper, c'est le podcast de Radio Canu. Et on vous dit à